BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Bah ça y est, c'est officiel, c'est confirmé, nos déficits publics ont largement dérapé à la fin de l'année dernière. Thomas Asportas va nous redonner les chiffres dans un instant. Il y a gros séminaire demain matin autour de Gabriel Attal pour faire potentiellement des annonces dans la foulée sur l'assurance chômage. Ça, on va en parler dans 10 minutes avec nos invités, la députée LR Véronique Louwagie, qui est vice-présidente de la commission des finances à l'Assemblée, et puis avec le patron de la CFTC, Cyril Chabanier, qui doit être d'ores et déjà assez remonté. Sinon, on commentera ce soir cette petite phrase de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, nous a quand même dit qu'il n'excluait pas de réquisitionner des personnels, des moyens de production du côté des industriels français pour augmenter la production de matériel militaire. C'est le genre de petite phrase qui vous fait sentir qu'on a changé de monde, désormais. On parlera tout ça avec nos experts à partir de 18h30, plus bien sûr l'actualité entreprise du jour. Atos notamment, comme tous les jours, vous me direz, Atos qui a tenté aujourd'hui de rassurer les marchés financiers. On verra tout ça. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h.
Good evening business, le journal.
Donc autant le dire, on n'est pas tombé de l'armoire ce matin quand l'INSEE nous a annoncé ses chiffres. Bonsoir Thomas.
C'est la semaine dernière qu'on est tombé de l'armoire.
Exactement. Depuis on a digéré. Donc déficit public à 5,5%, oui, du PIB à la fin décembre. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que le gouvernement essaye de redresser la barre désormais, Thomas ?
Alors, Bruno Le Maire a présenté son plan. Ce matin, en gros, il y a deux jambes, c'est les économies et les réformes. Pour ce qui est des économies, le ministre déjà a rappelé que l'État avait économisé 18 milliards d'euros depuis la fin 2023. L'État avait gelé 8 milliards de crédits en fin d'année, et puis il y a eu les fameux 10 milliards d'euros d'économies annoncés au mois de février. Maintenant, il attend des efforts aussi de la part des collectivités locales, qui ont des finances en meilleur état que celle de l'État, justement. Il va les réunir le 9 avril à Bercy pour un haut conseil des finances publiques locales. C'est nouveau. Ce sera inauguré donc en avril à Bercy. Les collectivités ont déjà répondu aujourd'hui qu'elles n'étaient pas là pour éponger la dette de l'État. Le ministre attend aussi un effort de la part des opérateurs de l'État. Les opérateurs de l'État, c'est Business France, c'est le CNC, c'est l'exemple qu'il a donné ce matin, c'est Météo France, bref, partout là où il y a marqué France. Parce que là aussi, d'après le ministre, leur trésorerie se porte bien, c'est les mots qu'il emploie. Il attend des propositions d'économie de leur part sous un mois, sans quoi, menace-t-il, c'est Bercy qui fera les économies. Et enfin, Bruno Le Maire attend évidemment des économies du côté de la dépense sociale, 850 milliards d'euros par an. Et le ministre a répété ce matin les dépenses qu'il avait dans le viseur, les arrêts maladie, les affections longue durée et les transports sanitaires.
Bon, donc ça c'est pour les économies. Thomas, en ce qui concerne les réformes, c'est cap sur le plein emploi vraiment à 100% là.
Pour le ministre, effectivement, c'est le fil rouge de toutes les réformes à venir dans les semaines et les mois qui viennent, à commencer par l'assurance chômage. Vous le disiez, il y a un séminaire gouvernemental dès demain matin à Matignon. Puis, Gabriel Attal viendra faire des annonces dans la foulée aux 20h de TF1, et le Premier ministre a d'ailleurs parlé cet après-midi à l'Assemblée de rigueur, c'est le mot qu'il a employé, évidemment il n'a pas été employé par hasard. Ouais. Autre réforme, la simplification, présentée en juin, et le ministre promet qu'elle va booster l'activité des entreprises et donc l'emploi, et enfin l'attractivité financière de la France. La réforme, elle arrive à l'Assemblée dans 15 jours, et l'objectif, là aussi évidemment, c'est de créer de l'emploi, en l'occurrence dans la finance.
Des économies et des réformes, voilà le cap pour les prochains mois pour redresser un petit peu la barre du côté des finances publiques. Merci beaucoup Thomas. Et on le disait, on en parle avec nos invités, Véronique Louwagie, député LR, vice-président de la commission des finances, et le patron de la CFTC, Cyril Chabanier, tout ça jusqu'à 18h30 sur BFM Business. Merci beaucoup Thomas. 18h02 dans l'actualité, sinon de ce mardi, il y a cette petite phrase du ministre des Armées qui semble nous expliquer qu'on a un peu changé de monde. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Guillaume.
Il a dit qu'il n'excluait pas, pour augmenter nos capacités de production de matériel militaire, qu'il n'excluait pas de solliciter les industriels. Ça, il en a tout à fait le droit, Jean-Baptiste, on est d'accord.
Hein. Sébastien Lecornu va faire la police. Il le dit lui-même, il s'agit de faire jouer des pouvoirs de police. Concrètement, l'armée pourra réquisitionner du personnel, du stock, des outils de production et même forcer une entreprise à accorder la priorité aux besoins militaires par rapport aux besoins civils. L'objectif, c'est d'obtenir plus rapidement des missiles, des munitions, des obus. Vous l'avez vu depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est toute l'industrie de défense française qui a été poussée à monter en cadence, produire plus en plus grosse quantité, c'est l'économie de guerre et ça commence quand même à fonctionner. Là, par exemple, on a en cours une commande de 2500 missiles anti-char, Mistral, Aster, Mika, il y en a pour plus de 2 milliards d'euros et la plupart de ces missiles sera livrés cet été alors que les délais qui étaient prévus, c'était plutôt 2027, 2028, donc ça s'accélère. Ceci dit, la route, elle est encore très longue. Hein. Créer des nouvelles lignes de production, des nouvelles chaînes dans les usines, réadapter l'organisation, ça demande du temps, de l'argent, beaucoup de travail, mais c'est vital pour notre commerce extérieur aussi, explique Sébastien Lecornu. Là, ces derniers mois, on a perdu des contrats en Europe de l'Est, parce que nous n'avons pas été capables de proposer aux clients des livraisons assez rapides par rapport à, justement, à notre concurrence. Et le ministre des Armées a terminé, et c'était intéressant, en vantant son modèle industriel idéal. Et pour lui, c'est le modèle automobile. L'industrie automobile qui est capable de produire en masse avec des très hauts niveaux de technologie. Donc une fois n'est pas coutume, j'allais vous dire, on emprunte aux civils les armes pour réorienter l'industrie de défense. En tout cas, ce modèle de l'industrie automobile fait son chemin dans l'industrie de défense.
Et donc Sébastien Lecornu qui n'exclut rien, y compris ses réquisitions. Voilà ce qu'il a déclaré ce matin. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Ariane 6, ça se précise, vous savez ça très près Jean-Baptiste d'ailleurs. Visiblement, le vol inaugural aura lieu, je cite, fin juin, début juillet. C'est ce qu'a déclaré le patron du CNES à Kourou en Guyane. C'est vrai qu'Emmanuel Macron était sur place. Vol inaugural qui a pris du retard, hein, puisqu'il était prévu à l'origine pour 2020. Le Covid, entre autres, est passé par là. Et puis alors, un mot de Carrefour qui a annoncé racheter pour 25 millions de ses propres actions, 3,5% de son capital. Ce sont des actions qui étaient détenues par les Galeries Lafayette qui, du coup, ne seront plus le premier actionnaire du groupe. Hélène Cornet nous explique la stratégie.
L'opération est annoncée gagnante par les deux parties, pour Carrefour d'abord, qui s'est engagé dans une vaste politique de rachat d'actions depuis 2020. Cette transaction lui permet d'atteindre la moitié des 700 millions d'euros de rachat prévus cette année. Une façon pour le distributeur de soutenir le cours de bourse et récompenser indirectement ses actionnaires. C'est la holding du milliardaire brésilien Abilio Diniz qui devient du coup premier actionnaire de Carrefour. L'homme d'affaires qui avait une passion pour le retail en France est décédé mi-février. Mais ses héritiers promettent de rester des investisseurs à long terme, sans clause juridique néanmoins pour les y contraindre. Opération gagnante également pour les Galeries Lafayette, qui ont besoin d'argent frais, selon une analyse de Brian Garnier, pour faire face à des échéances de dettes. Et ce, malgré la vente l'an dernier du BHV Paris et plusieurs magasins en province. La vente des actions Carrefour le signe néanmoins que la famille Moulin-Houzet à la tête des galeries ne s'attend pas à voir le cours du distributeur monter dans un avenir proche.
Hélène Cornet. Dans l'actualité, toujours année record en 2023 pour le chinois BYD, un leader mondial du véhicule électrique. Il a dégagé l'an dernier un bénéfice équivalent à un peu plus de 3,8 milliards d'euros. C'est quasiment le double de l'année précédente. En Allemagne, c'est quand même un petit événement. Figurez-vous que les conducteurs de train de la Deutsche Bahn, l'homologue allemand de la SNCF, les conducteurs vont passer à la semaine de 35 heures, ça y est, sans perte de revenus. Ça faisait des années que les syndicats le réclamaient. Ardemment. Et puis, on voulait vous dire un mot quand même de ce qui s'est passé à Baltimore, hein, quelques heures après l'effondrement d'un pont autoroutier percuté par un porte-conteneur. 6 personnes sont toujours recherchées au moment où on se parle. Transport maritime a été mis à l'arrêt au port de Baltimore, qui est l'un des plus fréquentés des États-Unis. Raphaël Couder.
Chaque jour, plusieurs centaines de porte-conteneurs circulent dans le port de Baltimore. C'est notamment le port américain par lequel transitent le plus de voitures neuves, plus de 800 000 l'année dernière. Baltimore est aussi un point d'entrée important d'importation de sucre. Au total, 52 millions de tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 80 milliards de dollars, sont entrées par cette voie aux États-Unis l'an dernier. Ce qui en fait le 9e port le plus important des États-Unis en termes de marchandises étrangères. Ce coup d'arrêt pourrait perturber les échanges dans la région. Les ports de New York et de Virginie devraient certes accueillir et traiter une partie de la marchandise destinée à Baltimore, mais leur capacité reste limitée. Quelques mois après les incidents en mer Rouge qui avaient entraîné les tarifs du fret à la hausse, certains experts craignent que ce nouveau grain de sel n'enraye une nouvelle fois la chaîne d'approvisionnement mondiale déjà mise à rude épreuve.
Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Aude Kersulek, bonsoir. Euronext, la défense pour BFM Business. Comment ça s'est passé ce mardi à la Bourse de Paris, Aude?
On a des marchés qui montent encore aujourd'hui, hein, plus 0,4% pour le CAC 40, des records même sur le DAX à Francfort, et puis Wall Street qui monte aussi. Pourtant c'est très calme, il ne se passe pas grand chose, on ne réagit pas par exemple sur les marchés aux chiffres du déficit français, que ce soit sur les actions ou sur les obligations, hein, puisque le taux obligataire français a suivi le mouvement de détente des autres taux obligataires des autres pays. Alors niveau valeur, sur le CAC 40, on a par exemple Kering qui a été la plus forte hausse de lundi ce soir à plus 3%. Et puis alors la remontada de la journée, c'est Atos qui était en baisse ce matin, cet après-midi, après sa publication de résultats, sa perte nette de 3,4 milliards d'euros sur l'année 2023, c'est plus de 3 fois plus que l'année précédente, qui a annoncé ouvrir une procédure de conciliation amiable pour 4 mois. Ça veut dire que d'ici le mois de juillet, Atos espère avoir un plan de refinancement avec ses créanciers pour poursuivre ses activités. On en saura plus autour du 8 avril, annonce la société. Les investisseurs qui donnent un peu de crédit en tout cas à ces annonces, puisque la valeur a finalement été rachetée en fin de journée. Elle monte de 0,7% et elle termine à 1,72€. Voilà pour un des grands mouvements de la journée dans des marchés plutôt calmes, mais en hausse aujourd'hui.
Merci beaucoup Aude Kersulek. On regarde ce qui se passe à Wall Street évidemment, rapidement. On est à la mi-séance aux États-Unis. Le Dow Jones qui grappille 0,2%, 39 400 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille également 0,2%. C'est pareil, 16 420 points. Tout ça à mi-séance, 18h09. Les déficits qui dérapent, séminaire gouvernemental demain autour de Gabriel Attal. On en parle dans un instant. Véronique Louwagie pour les Républicains et le patron de la CFTC, Cyril Chabani. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Bien, 18h13, on est de retour dans Good evening business. Les déficits qui dérapent, les annonces de Gabriel Attal, séminaire gouvernemental demain matin à Matignon autour de l'assurance chômage. On va en parler avec notre première invitée, Véronique Louwagie. Bonsoir madame, merci d'être venue.
Bonsoir.
Sur notre plateau, députée Les Républicains de l'Orne, vous êtes vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Comme on n'a que quelques minutes, je vais entrer très vite dans le vif du sujet. Après les chiffres qui sont sortis ce matin, quelles sont les propositions concrètes que vous voulez soumettre au gouvernement pour réduire nos déficits? Profitez-en, il y a séminaire gouvernemental demain matin, Madame Louwagie. Donc,
écoutez, j'aimerais bien que le gouvernement puisse nous écouter, parce que concernant ce déficit, on a déjà une surprise dans son montant, parce qu'il est extrêmement plus important que ce qui a été prévu, il est plus fort que 2022, et nous sommes un mauvais élève de l'Europe, hein, puisque nous aurons quasiment un des pires déficits européens. Nous devons agir sur les dépenses publiques. Depuis 2017, nous alertons le gouvernement sur le niveau de ces dépenses publiques, le niveau du déficit derrière et le niveau de la dette. Nous avons fait, et j'ai eu l'occasion de le dire cet après-midi à l'Assemblée nationale, des propositions du côté des Républicains. À l'automne 2022, nous avions fait une proposition de plan de sobriété bureaucratique avec un impact de 20 milliards d'euros d'économie échéance 2027, 30 milliards échéance 2030. Le gouvernement nous a rétorqué que ça n'était pas documenté, ça n'était pas précisé. J'ai demandé une mission d'information à la Commission des Finances, qui a été conduite avec deux co-rapporteurs, Robin Reddin, un député de la majorité, et moi-même, et nous avons fait une proposition à 15 milliards d'euros d'économie, échéance 2030. Donc vous voyez, des propositions, nous en avons. J'ajoute qu'à l'automne 2023, du côté des Républicains, nous avons fait un contre-budget sous l'autorité d'Éric Ciotti, président, et nous avons proposé une diminution des dépenses publiques de 25 milliards d'euros. Chiffré, documenté, précisé, avec certaines dépenses, certaines réformes qui concernaient le milieu social, oui. La réforme du chômage, d'autres sur l'hébergement d'urgence, d'autres sur l'aide médicale d'État. Voilà, un certain nombre de dispositifs. Le gouvernement raillé nos propositions. Voilà. Donc, je le regrette.
Vous achèteriez de possibles annonces demain sur l'assurance chômage. C'est ce qu'on entend dire. Il y a des pistes circulaires, non pas pour rogner sur le montant des indemnités, du reste, sur la durée, sur les conditions d'accès à l'indemnisation chômage. Est-ce que vous achèteriez ce genre de mesure si c'était annoncé demain par Gabriel Attal finalement?
Écoutez, je crois qu'il faut voir le détail. On sait que le diable se cache toujours dans les détails. Mais je crois que c'est une piste qui peut être mise sur la table et que nous pourrions retenir. Mais encore faut-il le mesurer, je dirais, le calibrage de ces mesures.
Mais est-ce que vous me parlez tout à l'heure de ces propositions qu'ont fait les Républicains depuis 18 mois? Est-ce qu'il y a une cohésion au sein des LR. Quand on voit ce qui a été l'attitude des Républicains sur la réforme des retraites, où vous avez mis des exigences dans la balance qui ont amoindri finalement l'impact de cette réforme, est-ce que vous êtes au clair aujourd'hui au sein des LR sur ce qui est pourtant l'essence même du logiciel économique des Républicains?
Je voudrais juste ajouter qu'en matière de responsabilité budgétaire, nous avons prôné une rigueur budgétaire. Ça a toujours été un cap. Cette réforme des retraites, nous avions plusieurs manières de l'aborder. Certains retenaient aussi une réforme par capitalisation. Et vous savez, je crois qu'on y reviendra dans quelques temps, parce que je ne suis pas sûre que l'évolution de la démographie permette de maintenir un équilibre budgétaire au niveau des retraites. Donc il y avait d'autres pistes qui n'ont pas été ouvertes par le gouvernement. Mais en matière de rigueur budgétaire, nous avons toujours prôné d'agir sur les dépenses publiques. Et il faut véritablement, et moi j'appelle le gouvernement à agir sur le niveau des dépenses publiques. Quand j'entends que certains membres de la majorité évoquent des recettes supplémentaires, des impôts nouveaux ou des taxes à venir, il faut véritablement s'attaquer aux causes de ce déficit. Et sur les causes des déficits, c'est le niveau des dépenses publiques.
Je vous entends, mais ce que je dis, c'est que sur ce sujet, on a l'impression que les Républicains ont perdu leur logiciel et qu'il n'y a pas de cohésion de groupe depuis un certain temps sur ce sujet, très clairement.
Je reviens à ce
Est-ce que c'est encore une priorité pour les Républicains de baisser les déficits publics, de maîtriser les déficits?
C'est une priorité de baisser les dépenses publiques. Je pense que dans la sphère publique, en matière notamment d'organisation, je rappelle que l'OCDE chiffre le coût des services publics en France supérieur de plus de 2% au PIB, qui est estimé aujourd'hui à 70 milliards d'euros. Donc tout ceci entraîne une réorganisation relativement importante. Il ne faut pas agir, je dirais, avec des réflexes rapides à la petite semaine, parce qu'on sait qu'il y a un certain temps entre les décisions, enfin les réflexions d'abord, les décisions, les actions, et ensuite la mesure des impacts. Mais je crois que nous avons, oui, des économies à faire dans la sphère publique.
Olivier Marleix, le patron du groupe, de votre groupe à l'Assemblée, a dit tout à l'heure, nous voulons un projet de loi finance rectificative cet été, ce que vous l'appelez.
Oui.
Et on entend déjà dire, s'il y a ce PLFR dans le courant de l'été, il y aura forcément une censure votée par les Républicains. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est l'étape d'après que vous préparez aujourd'hui?
Je crois aujourd'hui que les Français ont le droit à une transparence sur la nature des économies que souhaite faire le gouvernement. Nous avons eu un décret d'annulation de crédit budgétaire de 10 milliards d'euros qui a été fait, je dirais, sans mesurer l'efficacité et l'efficience de la dépense. Or, nous appelons une revue des dépenses. Alors, moi, j'en entends parler de cette revue des dépenses par Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, mais nous n'avons pas de résultat de cette revue des dépenses. Si elle existe, en tout cas, elle n'est pas publique.
C'est-à-dire que les 10 milliards d'euros de baisse de dépenses qui ont été annoncés il y a quelques semaines n'ont pas été documentés. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, très concrètement.
Voilà, tout à fait, parce que c'est simplement un décret qui ventile ces 10 milliards par mission et par programme, mais pas avec la déclinaison la plus fine que sont les actions. Donc nous n'avons pas de détails sur ces 10 milliards. Donc j'ai d'ailleurs demandé en commission des finances au ministre Bruno Le Maire et Thomas Cazenave d'avoir le détail. Ils m'ont indiqué que ce serait pour fin mars. Mais vous voyez, à travers un PLFR, nous avons ces détails, nous avons des échanges, nous avons des débats, et moi j'appelle un débat, des échanges, et c'est important d'échanger, que les Français aient connaissance en tout cas de ces débats qui peuvent exister dans l'hémicycle.
Éric Ciotti, qui était sur le plateau de BFM TV, nos collègues il y a quelques instants, disait qu'il faudra s'attaquer au statut de la fonction publique. On a l'impression que c'était quelque chose qui était un petit peu sorti de votre giron depuis 2017 et les annonces, les propositions fracassantes de François Fillon. Voilà.
Je crois qu'il faut...
Est-ce qu'on n'essaie pas de ressortir comme ça des placards un petit peu en désespoir de cause, des symboles,
Non, je rappelle que notre contre-budget que nous avons travaillé à plusieurs a été documenté avec 17 mesures d'économies budgétaires, 25 milliards d'économies au total, avec par ailleurs une redistribution pour moitié aux Français et l'autre moitié affectée à la diminution du déficit public. Mais je crois que la situation est extrêmement grave. Nous décrochons par rapport à l'Europe, nous sommes un très mauvais élève. Donc toutes les pistes doivent être mises sur la table. Et je mesure que le gouvernement a besoin d'économies rapides, mais je crois qu'il faut que nous ayons aussi une démarche avec une vision à moyen et à long terme. Et il faut effectivement mettre sur la table toutes les pistes et travailler sur ces pistes.
Dernière question que je voulais vous poser concernant Éric Ciotti, qui disait la semaine dernière que la France était en train d'emprunter, je cite, le chemin de la Grèce. Est-ce que vous considérez que la France emprunte le chemin de la Grèce, Madame Lovagie?
Mais écoutez, je voudrais juste rappeler...
Vous pouvez parler un petit peu dans les caricatures là aussi.
2017, il y avait 7 pays qui étaient plus endettés que la France. Aujourd'hui, il y a simplement deux pays qui sont plus endettés que la France, la Grèce et l'Italie. C'est dire que nous avons augmenté notre niveau de dette de 1 000 milliards d'euros.
La France n'est pas à la veille de faire défaut sur sa dette et sur une échéance de paiement, Madame Louwagie.
Mais la difficulté,
les choses sont pas
comparables,
c'est la dette, du tout.
Mais la charge de la dette. Vous vous rendez compte qu'en 2027, nous aurons une charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts, qui représenteront plus de 80 milliards d'euros. C'est dire que nous serons privés d'investissements pour la transition écologique, pour agir sur notre défense, pour agir sur l'éducation nationale, sur la santé, d'une somme relativement importante. Est-ce que l'on peut accepter de payer des intérêts de la dette parce que nous avons aujourd'hui une addiction aux dépenses publiques? Est-ce qu'il faut rester dans ce
dispositif d'addiction aux dépenses publiques? Donc vous achetez en partie le propos d'Éric Ciotti. Vous dites quelque part la France emprunte le chemin de la Grèce aujourd'hui.
Oui, tout à fait. La trajectoire que nous avons n'est pas une bonne trajectoire. Nos dépenses dépenses publiques augmentent. C'est 300 milliards de dépenses publiques de plus depuis 2017. Notre déficit public augmente. Nous décrochons par rapport à l'Europe. Notre dette augmente et la charge de la dette va engager une trajectoire très importante. Donc, si les agences de notation déclassent la France dans quelques jours maintenant, fin avril et fin mai, cela peut avoir des répercussions également sur le taux d'intérêt, donc sur la charge de la dette. Et il faudra voir à un moment donné comment les marchés mondiaux vont réagir par rapport à cette situation. Donc, il est temps d'apporter une correction à cette situation qui est extrêmement grave.
On est à quelques semaines effectivement de cette échéance. Moody's et Fitch 26 avril si je ne m'abuse et l'agence Standard & Poor's le 29 mai prochain. Merci beaucoup Véronique Louwagie. Merci de passer nous voir, vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée des députés Les Républicains de l'Orne. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci.
18h23, le patron de la CFTC Cyril Chabagnier est avec nous dans 30 secondes sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h24, le patron de la CFTC, Cyril Chabagnier avec nous. Bonsoir Monsieur Chabagnier. Et votre potion à vous pour réduire les déficits publics, qu'est-ce que c'est? On entendait Madame Louwagie, des réformes, possiblement réforme de l'assurance chômage. Qu'est-ce que dit la CFTC dans cette histoire, Cyril Chabagnier, finalement?
Réforme de l'assurance chômage, on en a déjà subi trois en trois ans. Donc je pense qu'il serait peut-être temps de regarder ce qu'elle donne comme résultat déjà, parce qu'en fait on fait des réformes, on ne regarde pas les effets produits et on en fait d'autres avant même de pouvoir les évaluer. Je vous rappelle que l'année dernière, pendant près de 6 mois, le gouvernement nous a vendu la réforme avec le contrat cyclique. On est plus dur avec les chômeurs quand ça va bien, plus souple quand ça va mal. Et aujourd'hui, donc il y a eu un premier tour de vis quand l'économie se portait mieux. Et aujourd'hui, on a des difficultés conjoncturelles. Le gouvernement nous dit, non mais attendez, on va mettre sur pause le contrat cyclique et on va mettre un nouveau tour de vis. Alors en fait, on a beaucoup de réformes sans jamais les évaluer et 6 mois après, on nous dit l'inverse de tous les arguments qu'on nous a donnés pendant 6 mois.
Donc là, vous n'avez pas du tout été informé, sollicité sur ce qui pourrait être annoncé demain. Vous avez vu ce qui circule éventuellement, raccourcissement de la durée d'indemnisation, durcissement des critères pour bénéficier de l'assurance chômage. Vous n'avez pas été consulté sur tout ça, on est d'accord.
On n'a pas été consulté sur tous ces sujets-là et on les suit comme vous dans la presse.
Mais vous craignez le nouveau tour de vis, très clairement, aujourd'hui.
Ça a été clairement annoncé dans plusieurs, sur plusieurs plateaux et dans plusieurs interviews. Donc,
à quoi certains pourraient vous dire, le marché du travail reste tendu. Oui, ça ralentit économiquement, mais le marché du travail reste tendu dans les faits. Alors pourquoi ne pas mettre un nouveau tour de vis? Appelez ça comme vous voulez, finalement.
Mais parce qu'un tour de vis n'aurait un sens que si ça marchait. Or, la limitation de la durée du chômage n'a jamais... Il n'y a aucune étude qui démontre que ça a un effet, un impact sur l'emploi. Donc oui, il y a des choses à faire. Il faut regarder sur la qualité de l'emploi. Il y a des choses à faire avec les entreprises sur les conditions de travail, sur les salaires aussi. Donc on est prêt à discuter sur des tas de solutions. Mais un nouveau tour de vis, ça ne marchera pas. Ça fait c'est le troisième tour de vis en trois ans. Pour l'instant, il n'y a aucun résultat.
On sent une très grande fébrilité sur ce sujet, mais on a l'impression que c'est l'avenir du paritarisme là, qui est en train de se jouer. Vous êtes en train de négocier avec votre partenaire social les futures règles de l'assurance chômage. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose émerger. On a l'impression peut-être que le gouvernement là, va essayer de plier le match définitivement et de tuer le paritarisme. Est-ce que c'est un petit peu votre sentiment? Je disais à un représentant syndical qui disait il y a quelques jours, on en a marre de discuter, négocier avec un revolver sur la tempe. Est-ce que c'est ça l'idée?
Oui, c'est mon collègue de l'UDP qui disait ça. Oui, c'est clair, on négocie avec des lettres de cadrage qui sont de plus en plus cadrées et qui sont même tellement cadrées qu'on n'a plus aucune marge de négociation. Donc j'appelle plus ça des négociations. Et puis, alors en ce moment... On négocie surtout sur la loi Pacte de vie au travail,
mais qui a un lien
avec la validation de la convention de l'assurance chômage. Et pendant qu'on négocie, Le gouvernement fait des annonces en disant on va faire un tour de vis sur l'assurance chômage. On a des annonces en disant on comprend pas en fait que les partenaires sociaux continuent à gérer l'assurance chômage. C'est l'État qui devrait le gérer directement. Oui. Donc, je dirais pas que c'est la fin du paritarisme sur tous les sujets, parce que pour l'instant, ils pensent que, par exemple, la gestion de la GIR-CARCO, les retraites complémentaires, oui, ça doit rester chez nous, mais l'assurance chômage, ils estiment que ça doit disparaître.
Mais il y a quand même un beau magot de prestations, je crois que c'est entre deux entours de 250 milliards d'euros de prestations que le gouvernement aimerait bien récupérer. C'est ça l'idée, fondamentalement.
Alors, je suis très content que vous abordiez ce sujet, parce que, un, ça veut dire que tout ce que gèrent les partenaires sociaux, on le gère bien, puisqu'il y a des magots de partout. Donc, on gère bien l'assurance chômage. Tout le monde reconnaît qu'on gère très bien les retraites complémentaires, 88 milliards de réserves. Donc, j'ai presque envie de dire que plutôt que l'État récupère l'assurance chômage, mais alors, je me demande si ce n'est pas les partenaires sociaux qui devraient récupérer certains budgets.
Oui, mais justement, est-ce que vous sentez venir le gouvernement où le gouvernement va vous dire « Bon, bah écoutez, merci bien ». Nous allons récupérer ce magot et vous allez, vous, partenaires sociaux, vous cantonner aux négociations entre entreprises. Est-ce que vous voyez venir quelque chose comme ça? Ça fait des années que vous nous le dites, effectivement.
Oui, oui, on voit que le paritarisme est remis en question. On voit que la négociation de branche est remis en question, que l'État veut que les partenaires sociaux ne servent plus que dans la négociation au plus près, donc c'est-à-dire dans les entreprises. Et d'ailleurs, rappelez-vous aussi quelques, je vais pas dire quelques annonces, mais quelques sujets sur lesquels notre ministre de l'économie voulait aller. Par exemple, sur le fait de, et le rapport des députés, de ne plus devoir appliquer les conventions collectives quand une entreprise se crée les cinq premières années. Donc on voit bien, en fait, ce qu'on voit le pire, moi je dirais, et ma pire inquiétude, c'est que sous prétexte de la grande réforme de la simplification, sur laquelle on peut adhérer, parce que évidemment qu'il faut simplifier des choses. Moi, la fameuse phrase du ministre qui est « dites-le qu'une fois », parce que dans ce pays, on doit tout faire avec 10 papiers et 10 fois, on est parfaitement d'accord sur ça. Mais est-ce que la simplification doit aller à la fin du paritarisme? Est-ce que la simplification, ça doit aller à la fin du dialogue social? On a l'impression, en fait, que dans ce pays, le dialogue social, ça devient quelque chose qui va à l'encontre de la productivité des entreprises. Moi, la CFTC, on est persuadé qu'un bon dialogue social, ça permet d'être gagnant-gagnant et donc ça favorise l'entreprise également.
Pardon pour cette question un peu provocation, mais vous sentez les années passant, l'étau se resserrer. Est-ce que ça vaut le coup de continuer, je le dis avec un brin de provocation, à discuter, à négocier sur l'emploi des seniors, puisqu'apparemment vous semblez vous-même prédire la fin de l'histoire aujourd'hui. C'est reprise en main de l'État par tout ou partie de ces questions.
Je pense que c'est capital de continuer à négocier parce que
là non plus on voit pas vraiment la lumière sur l'emploi des seniors. La dernière réunion devait être justement aujourd'hui. On a prolongé les débats d'une semaine ou de 15 jours.
Il y a trois négociations qui se font, qui sont sur l'emploi des seniors, le compte épargne temps universel et l'usure professionnelle et les reconversions. Ce sont des sujets cruciaux sur lesquels on n'arrive pas à avancer aujourd'hui avec le patronat.
C'est le meilleur argument pour l'État. C'est le meilleur argument pour l'État.
Alors attendez, c'est pas fini. Vous savez comment les négociations se terminent. Souvent les concessions se font à la dernière nuit ou les dernières heures. Donc on verra bien comment ça va se terminer. Mais oui, ce sont des sujets cruciaux, il ne faut pas abandonner, parce que régler l'emploi des seniors, c'est régler le problème du déficit des retraites. Et peut-être que ça nous évitera une nouvelle réforme en 2027 à la future campagne présidentielle. Régler les reconversions, c'est essentiel. Aujourd'hui, tout le monde dit que la plupart des métiers dans 10-15 ans n'existent pas encore, que dans la plupart des industries, on va devoir reconvertir des millions de personnes, je pense à l'automobile par exemple. Donc évidemment que la reconversion des salariés est un sujet essentiel. Et le compte épargne temps universel, pour pouvoir gérer son temps tout au long de sa carrière professionnelle,
y compris
avec des pauses, ça serait pas inutile. Donc ces sujets sont tellement importants que ça serait une faute pour nous de ne pas essayer de les négocier et de conclure un accord.
Est-ce que pour sauver la face vis-à-vis du gouvernement, sauver le paritarisme, tout ça va pas vous inciter à trouver des compromis un petit peu boiteux dans les prochains jours quand même? C'est un petit peu le risque pour sauver la face. Alors, vous avez en conférence de presse commune sur ces sujets l'autre jour, on sent qu'il y a le feu à la maison.
C'est très important de trouver un accord. Donc il faudrait trouver un accord. Pour trouver un accord, il faudra que tout le monde fasse un peu des concessions. Bon. Par contre, à votre réponse claire, j'aurai une réponse claire. Si la signature devient, pour l'image de la signature, devient plus importante que le fond de l'accord, c'est-à-dire signer pour signer, alors que dans l'accord, il est vide et il n'y a rien, il n'y aura pas la signature de la CFTC. Mais j'ai espoir, encore une fois, que le 8, où on va y passer, je pense, une bonne partie de la nuit, des concessions et la raison reviennent pour qu'on trouve un accord.
Ça sera dans 8 jours. En attendant, on écoutera religieusement, bien sûr, les annonces de Gabriel Attal demain. Merci
sur
beaucoup.
Sur lequel on est inquiet pour le moment. Quoi.
On l'a bien compris. Merci beaucoup, Cyril
Merci Bechabini, à vous.
Le patron de la CFTC avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup. 18h30 sur BFM Business.
Good evening business. Actu, experts, débats, interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, c'est reparti. Good evening business en direct jusqu'à 20h. Audrey Tcherkov nous a rejoint. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Et bonsoir à nos experts, Mathieu Pechberti qui est là, Emmanuel Le Chypre qui est là aussi, et Thomas Asportas qui est là aussi avec un nombre de feuilles et de notes assez impressionnant.
Oui, il n'a pas besoin de notes pourtant.
Ah oui,
non, non, mais c'est distribué à mes camarades, les notes de l'INSEE.
Ah, les notes de l'INSEE. Donc, nous ne sommes pas tombés de l'armoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand l'INSEE nous a confirmé ce matin les chiffres qu'on attendait, déficit public 5,5% à la fin décembre. Bruno Le Maire, cela dit, est resté droit dans ses bottes tout à l'heure à l'Assemblée. L'objectif, c'est toujours de récupérer les 3% d'ici la fin du quinquennat, même en dessous. Comment va-t-on se sortir de cette histoire, Audrey?
Eh bien, c'est quand même toute la question. On va essayer d'y répondre ce soir. Peut-être déjà en étant un peu plus transparent, parce que je vous rappelle que quand le gouvernement a publié son budget en fin d'année dernière, personne n'y a cru. Aucun organisme n'a estimé crédible la projection de croissance, qui reste d'ailleurs encore aujourd'hui un peu trop optimiste. Et puis, deux solutions. Soit on baisse les dépenses, soit on augmente les recettes. Baisser les dépenses, c'est le fameux coup de rabot à 10 milliards, mais on est en train de couper dans les dépenses d'avenir. Donc c'est quand même assez inquiétant. Et puis, augmenter les recettes quand la croissance baisse et la productivité aussi, avec une courbe du chômage qui augmente, eh bien c'est assez compliqué. Comment peut-on ne pas passer par la case où on augmente les impôts, Emmanuel Le Chypre?
Il y a plusieurs choses à faire. Si vous voulez faire des économies, c'est d'abord ce qui est dans les tuyaux et qui ne coûte rien, encore une fois, et qui simplifie la vie, c'est toutes les mesures destinées justement à faire de la simplification. C'est-à-dire que si vous allez dans cette logique où vous créez de la fluidité sur tout un tas de codes, de normes, de réglementations, etc., forcément, déjà, ça a un impact sur l'efficacité de l'État et sur l'efficacité des entreprises. Après, de toute façon, il ne faut pas rêver. Si on utilise les méthodes qu'on a toujours utilisées depuis 30 ans pour essayer de réduire la dépense publique...
Oui, on n'y arrivera pas, ça c'est clair.
On n'y arrivera pas.
Non, mais ceci dit, est-ce que la simplification va nous aider ramener le déficit aux 3%? Mais ce n'est pas possible.
Non, mais pas du tout. Non, mais de toute façon, Bruno Le Maire doit être le... Xème, je sais plus compter depuis 30 ans. Mais je veux dire, grosso modo, comme tous ses prédécesseurs, Bruno Le Maire nous promet qu'il va ramener les déficits à moins de 3% dans les 2-3 ans qui viennent.
Qu'est-ce qu'ils disent d'autre?
Personne ne l'a tenu. Alors, il y en a qu'un qui l'a tenu, mais au prix d'une saignée des contribuables, c'est François Hollande, puisqu'il a quand même massacré les classes moyennes, et notamment les classes moyennes supérieures, avec des hausses d'impôts qui ont permis, effectivement, en 2017, d'avoir un déficit un peu inférieur à 3% du PIB, mais grosso modo on tangente toujours cette barre-là et on voit pas, encore une fois, même dans ce qui est proposé, ce qui pourrait changer la donne. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le marché du travail, on va aller chercher, on va aller gratter sur peut-être quelques aides, etc.
Oui, c'est ça, donc on est sur des fonds
tiroirs. Sur la vraie remise en cause structurelle,
pas de projet de société,
fonctionnement de l'appareil d'État, bon. Or, c'est là que l'argent se gaspille. Bon, il n'y a toujours rien.
On verra ce qui se dira demain. Donc, séminaire gouvernemental demain matin autour de Gabriel Attal à Matignon. Bon, vous nous disiez tout à l'heure, les deux jambes dans cette histoire, c'est des économies et des réformes. C'est ça l'idée, fondamentalement.
Oui, le plan. Effectivement, les économies, Emmanuel vient d'en parler. Et pour ce qui est des réformes, ça va commencer dès demain matin. Évidemment, il y a une séquence politique qui s'enclenche. À la suite de la publication de ces chiffres, on voit les oppositions... Baston, c'est mon guillemets à l'esprit, mais enfin, tire à boulet rouge sur le gouvernement en vue des prochaines élections européennes notamment. La contre-attaque que le gouvernement va essayer de mettre en place, ça commence dès demain matin avec ce séminaire gouvernemental centré autour du travail. Donc, en creux, comprendre la prochaine réforme de l'assurance chômage. Mmh. Ils vont mettre la dernière touche à ce qu'ils veulent faire demain matin et les annonces vont être faites demain soir au 20h de TF1.
Donc, on va y retourner sur l'assurance chômage. C'est ce que ça veut dire, Emmanuel, finalement. C'est le Chabanier qui nous dit, on n'a pas eu déjà d'études d'impact jusqu'à présent sur les répercussions concrètes des précédentes réformes de l'assurance chômage.
Si, le gouvernement communique des chiffres, quand même, de retour à l'emploi.
Oui. Alors, il y en a eu et le résultat est assez mitigé. C'est-à-dire qu'en gros, oui, ça a eu un effet, mais il est évident et qu'il n'y a aucun économiste qui vous dira que c'est la seule solution pour faire baisser encore le chômage. Or, je veux dire, cette idée qu'il faut faire travailler les Français davantage, de toute façon, quel que soit même l'état des finances publiques, etc., c'est une priorité absolue pour tout. Donc, il faut absolument aller vers encore une augmentation supplémentaire du taux d'emploi. Là où on peut avoir quand même des interrogations, c'est que quand on nous dit les seniors, il faut encore durcir les conditions d'indemnisation pour les chômeurs, etc. La réalité, c'est que quand vous regardez ce qui se passe dans des pays qui sont à peu près semblables aux nôtres, donc je parle pas du Royaume-Uni, etc., mais vous vous apercevez qu'il y a des dispositifs partout qui sont plus généreux pour les plus de 55 ans. Donc cette idée qu'on va mettre les plus de 55 ans exactement sous la même toise que les autres demandeurs d'emploi, quand on entend le gouvernement utiliser l'argument de dire il faut qu'on s'aligne sur ce que font les on s'aligne sur ce que font les étrangers les plus
oui gros. Après Emmanuel Macron plaide pour une réforme de l'assurance chômage grosso modo depuis 2014.
Oui, mais ça a produit, il faut pas nier que ça a contribué à faire baisser le chômage. Mais le chômage, il est tellement... Et l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi sont tellement multifactorielles. Mmh. Par exemple, moi je vous donne...
Emmanuel, le gouvernement n'a jamais dit que ce serait la solution magique. Hein.
Non, mais il y a des pièces
du puzzle.
Non, mais voilà, ça...
Oui, effectivement, c'est la réforme la plus facile à faire pour le gouvernement, parce qu'ils l'ont déjà faite trois fois.
Oui.
Et qu'elle est soutenue par le
Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pièces du puzzle qui nous sont présentées.
Alors, à ce sujet, on a ressorti la fameuse note du site Fipeco, vous savez, qui fait référence, qui nous disait encore en décembre dernier qu'y a-t-il dans 1 000 euros de dépenses publiques. Dans 1 000 euros de dépenses publiques, vous avez aux alentours de 250 euros sur les retraites, un peu plus de 200 euros sur la santé, et seulement 39 euros sur l'assurance chômage. Donc, les grandes masses, elles sont sur les retraites, on ne va pas y retourner. Elles sont sur la santé, on ne va pas y aller à quelques mois des européennes. Alors que l'assurance chômage, finalement, vous voyez les sondages qui vous disent que c'est de plus en plus admis dans l'opinion publique.
Aujourd'hui,
on est au chômage, on en est un petit peu responsable.
Pourquoi ? Parce que l'obsession, c'est en effet faire en sorte que le travail paye plus que l'assistanat. Oui. Thomas.
Et pour ce qui est de la, pour ce qui est de la santé, effectivement, il y aura rien de traumatisant dans l'opinion avant les élections. Mais une fois que ce sera passé, on ne pourra pas y couper dans le prochain budget. Alors rien de systémique. Parce qu'effectivement, pour le moment, le gouvernement n'est pas capable de le faire. Mais il y aura des coups de rabot dans la dépense sociale. Le gouvernement avait déjà essayé de le faire dans le précédent budget. Ce n'était pas passé. Je vous rappelle qu'il voulait faire porter sur les épaules des entreprises une partie des arrêts maladie. Ils vont revenir à la charge là-dessus. Bruno Le Maire l'a redit ce matin. La question des affections longue durée, ça aussi, c'était dans le collimateur de Bruno Le Maire dans le dernier budget. Ouais. Il va revenir à la charge. Et pour les transports sanitaires, il y aura un petit tour de vis. Donc rien avant juin, mais oui à l'automne.
Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'en gros, la réalité, c'est qu'il faudrait aller chercher structurellement au moins une cinquantaine de milliards d'économies par an à terme.
Mais pour le moment, il y a zéro solution structurelle.
En réalité, c'est qu'on on va réussir. Si, il y a quand même, sur tout ce qui est affection longue durée, sur tout ce qui est économie et lutte contre les gaspillages en matière de dépenses sociales, etc., il y a quand même des milliards à aller chercher.
Ah non, mais évidemment.
Il y a des milliards
sur les affections longue durée. Après, oui, mais est-ce que vous allez l'assumer politiquement d'aller faire des économies sur les affections longue durée ?
Est-ce que
vous allez faire des économies sur l'affection longue durée ? Est-ce que vous allez prendre
ce risque politique ? Oui, mais politiquement, à ce moment-là, tout est compliqué. C'est-à-dire, et là où on n'est pas aidé par le budget, finalement, par ce qu'a publié l'INSEE ce matin sur les comptes 2023, c'est qu'on voit que finalement, l'équilibre des comptes sociaux, c'est pas si mal.
Ouais.
Et que même cette dette dont on nous dit que c'est le...
C'est 111% du PIB.
Oui, sauf que la charge de la dette a baissé en 2023.
De 2 milliards. Ouais.
Donc, c'est là où c'est... Non, moi ce qui m'inquiète, c'est que, de toute façon, on a toujours dit que... Enfin, encore une fois, ça fait 15 fois qu'on nous dit que il va falloir fournir un effort sans précédent, que cette fois-ci, la situation est grave, etc. Et on voit bien que, pour le moment, les marchés ne bougent pas d'un iota.
Ah, il y a un point... Le spread de taux avec l'Allemagne, il n'a pas bougé en un an.
Mais non.
C'est-à-dire que là, en gros, tout ce que le gouvernement nous dit, c'est il faut qu'on entame ce tournant de la rigueur parce que les agences de notation, dans un mois, enfin pas que le gouvernement d'ailleurs, les médias, enfin tout le monde. L'année dernière, Fitch dégrade la note. On passe de AA à AA-. La note de la France, les taux n'ont pas bougé, d'un pouillème. Le spread de taux avec l'Allemagne n'a pas bougé d'un pouillème.
Le risque est politique, il n'est pas économique. Le chiffre aujourd'hui, c'est quand même le chiffre le plus alarmant de la 5e République. Je ne vous parle pas de la pandémie, évidemment. Enfin, ce sont.
Oui, mais il y a des sujets.
Personne ne dit que c'est glorieux.
Avec les agences de notation, il y a deux sujets. Moi, je pense que le budget 2023. Le résultat va déplaire aux agences de notation. Et donc, je pense qu'il y a un risque de dégradation. Il va déplaire aux agences de notation parce que qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que disent les organisations internationales, FMI, OCDE, les agences de notation ? L'État doit réduire son train de vie. Les retraites pèsent trop lourd dans le budget de la France. Il faut les réduire. Or, qu'est-ce qu'on voit dans le budget 2023 ? C'est même une quasi-provocation. C'est-à-dire que quand vous regardez la hausse des dépenses de fonctionnement, plus 6%, ouais. plus 60 000 fonctionnaires,
plus, 29
plus 60 000 fonctionnaires, plus la revalorisation du traitement des fonctionnaires, plus la revalorisation des retraites.
Oui, c'est un échec assumé sur
donc
la
ça,
gestion.
Franchement, c'est la France publique. Se fout de la gueule du monde. Ouais. Donc ça, je pense que les agences de notation vont peut-être le sanctionner.
Et Bruxelles, Emmanuel.
Oui, enfin bon, Bruxelles, c'est pas. Enfin, via les sanctions de Bruxelles, on les attend. Et la deuxième chose, c'est est-ce que si on est dégradé, et là c'est le 26 avril, hein, parce qu'il y a Fitch et
Moody's le 26 avril et Standard.
Est-ce que ça va avoir un impact? La réponse aujourd'hui est très probablement à peine. À peine.
D'un point de vue économique et financier, le risque, il est politique. C'est-à-dire qu'effectivement, après, ça donne un argument aux oppositions.
Le risque est surtout pour Bruno Le Maire. Écoutez, au milieu de tout ça, le député communiste Sébastien Jumel, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, qui a bien des reproches à faire au gouvernement, qui a d'autres pistes à lui suggérer pour maîtriser les déficits. Écoutez.
On multiplie les cadeaux aux plus riches au détriment des autres. Flat tax, exit tax, ISF supprimé, contrat... CICE, crédit impôt recherche, ça c'est des plusieurs milliards d'euros donnés sans contrôle et sans contrepartie. On a creusé le déficit et aujourd'hui, Bruno Le Maire qui écrit un roman dit aux Français, vous allez devoir payer la dette que j'ai moi-même creusée. Et donc, le sentiment qu'elle note, c'est un sentiment de colère. Il est hors de question que les Français payent pour un déficit qu'ils n'ont pas contribué à creuser. Il faut taxer les hauts revenus. Il faut réinterroger les niches fiscales, 94 milliards d'euros de niches fiscales de toutes sortes qui me font dire qu'il vaut mieux avoir de l'argent dans ce pays, nager dans le luxe, le calme et la volupté que vivre de son travail. Et puis réinterroger les dispositifs qui sont pas efficaces. La suppression, le CICE, le crédit impôt recherche sert des fois à des renoncements de souveraineté industrielle.
Emmanuel Chip, ça vous fait rire.
Non, mais on n'est pas obligé d'entendre un tel tissu de bêtises. C'est-à-dire que ce propos dans sa longueur
est
sur le podium du championnat du monde des propos stupides. Tout est faux. C'est factuellement faux. Le raisonnement est faux, les faits sont faux, etc. C'est pitoyable. Non, c'est pitoyable. C'est-à-dire que son bien entendre ne mérite même pas une réaction. Dire que les Français n'en ont pas profité,
Mathieu,
c'est n'importe quoi.
Pour tempérer.
Dire qu'on n'a pas de contrôle sur tout ça, c'est enfin,
si vous y arrivez.
C'est n'importe quoi. N'importe quoi.
Mathieu Pechberti.
Non, mais il y avait quand même, sur le volet dépenses, j'entends ce que dit Emmanuel, et moi j'ajoute même que. Il y a eu beaucoup d'aides gouvernementales, notamment pendant la crise énergétique sur le bouclier tarifaire, qui sont en train d'atterrir, mais qui atterrissent difficilement, puisque le gouvernement, et notamment Bruno Le Maire, ne veut pas se heurter à une sorte de fronde un peu type gilet jaune sur l'énergie. Bon, c'est quand même nettement calmé cette année, hein, mais l'année dernière, on en parlait quand même encore un petit peu. Ça aurait pu être arrêté avant. Et on sort quand même d'une période de 4-5 ans avec le Covid, avec la crise énergétique du fameux quoi qu'il en coûte, où l'État a énormément dépensé à la fois pour les entreprises, les ménages, et qu'il y a quand même une petite musique que les patrons craignent d'ailleurs, hein. Donc la petite musique on l'entend pas beaucoup, mais de dire est-ce que symboliquement il serait pas quand même à un moment donné utile, justement pour le symbole, d'aller chercher des contributions ici ou là sur les hauts revenus, sur les entreprises.
Avec une remise en cause de la politique de l'offre.
Faut pas. Sans aller jusque là.
Un one shot
pendant la crise énergique, tout le monde a trouvé ça normal entre guillemets.
Les super riches, c'est pas un problème. Ils supplient pour qu'on les taxe plus.
Une seule fois.
C'est plus compliqué sur les super profits parce que là, qu'est-ce que c'est que des super profits, etc. C'est là.
Pendant la crise énergétique, les énergéticiens étaient entre guillemets ravis de pouvoir politiquement dire qu'une partie de leurs profits, avec des mécanismes compliqués d'ailleurs. Financer finalement le bouclier tarifaire, ça serait pas totalement délirant d'imaginer quand même des mesures symboliques là-dessus. Quoi.
Ce qui est quand même fou, c'est que Bruno Le Maire, qui se voyait déjà sans doute anticiper la suite de sa carrière,
et en haut de la fiche,
espérait que les Français garderaient quand même de lui l'image du ministre de l'économie qui a quand même tenu l'économie française pendant le Covid, qui a maintenu quand même leur niveau de vie pendant le Covid.
Ah, mais pour ça, il fallait se présenter il y a 2 ans.
Oui, mais ça, ce que je veux dire, c'est je pense qu'il pensait capitaliser là-dessus, et le vent est en train de tourner, et on commence à lui reprocher d'être le ministre de l'économie, qui a le plus dépensé, qui a dilapidé l'argent public.
Vous écoutez
qualité d'agent.
Vous écoutez Emmanuel Le Chypre, on a l'impression que Bruno Le Maire n'y est pour rien. C'est-à-dire qu'il a tout subi, toutes les décisions lui ont été imposées.
Non, pas du tout.
Si. C'est ce que ça laisse entendre.
Alors, il y a plusieurs choses. Si la réalité, c'est que Bruno Le Maire, comme ministre d'économie, et comme ministre d'un gouvernement qui doit finalement appliquer les ordres qui viennent d'en haut, Bruno Le Maire, il a avalé un paquet de couleuvres.
Il est ministre de l'économie et des finances, il n'est pas assistant du chef de cabinet.
Oui, mais attendez, quand Bruno Le Maire répète à longueur d'antenne qu'il faut en finir avec le quoi qu'il en coûte, qu'il faut arrêter les aides qui saupoudrent et qu'il faut faire des aides beaucoup plus ciblées, et qu'à plusieurs reprises on vous a sorti des dispositifs généraux, et donc moi c'est ce que j'appelle manger son chapeau ou avaler des couleuvres, comme vous
voulez. Mais à ce moment-là on part.
Sa gueule ou on démissionne.
Voilà, exactement.
Ça, je suis d'accord. Et pendant longtemps, il a fermé sa gueule. Voilà. Là, le problème, c'est qu'il ne la ferme plus, puisque quand vous lisez son bouquin, c'est quand même un bouquin en même temps, c'est plus possible, qui promet des transferts d'impôts, etc. Donc là, oui, il y a un sujet. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Et moi, d'ailleurs, je ne comprends pas très bien quel est son agenda personnel dans la sortie de ce livre, etc.
Peut-être qu'il trace sa route et que si nous sommes dégradés dans quelques semaines, il en profitera pour dire
sur la prochaine séquence.
Je l'avais bien dit et qu'il partira, tout simplement. Et puis après l'histoire.
Mais il fera comme
une petite chose pour finir quand même, parce qu'on lui a posé la question ce matin à Bruno Le Maire sur les aides aux entreprises. Évidemment, un sujet très important pour tous ceux qui nous écoutent. Il a confirmé le calendrier de suppression de la CVAE, parce qu'évidemment, on se pose la question. Il a dit je maintiens le calendrier. Et pour ce qui est du CIR, en revanche, il y a un rapport qui va être remis bientôt sur les aides aux entreprises. Là, il n'exclut pas, ici ou là, des petits coups de rabot, comme on l'a fait l'an dernier, par exemple, sur les charges sur les hauts salaires.
Ça n'a pas plu au patronat.
Oui, évidemment, c'est un sujet très sensible pour eux.
Mais donc, on commence à rentrer dans cette séquence qui était inenvisageable il y a quelques mois.
Absolument. On verra déjà ce que nous dira Gabriel Attal demain. On a deux grosses minutes pour le point Atos du jour, Mathieu, parce que ce matin, on a les résultats.
Pas plus.
D'Atos. Voilà. Mais perte nette de 3,4 milliards d'euros et on nous promet qu'on aura un accord pour restructurer la dette d'ici juillet, d'ici 4 mois. Alors, les marchés financiers ont été un peu hésitants. Le titre a perdu jusqu'à 6-7%. Il a terminé en hausse de 0,6-0,7%. C'est plus trop sur quel pied danser, finalement, Atos.
Oh non, mais vous savez, le titre Atos, faut plus se fier.
Un euro et des bananes.
C'est remous, il y a tellement de vendeurs à découvert sur cette action que ça ne veut plus rien dire.
Ouais.
Donc, quand même 3,5 milliards d'euros de pertes. Enfin, faut quand même bien l'enregistrer. C'est quand même colossal pour un groupe de cette taille qui fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
C'est environ 20 fois la capitalisation actuelle de.
Oui, en négatif. Donc, mais je pense qu'il ne faut plus comparer les chiffres, là, parce qu'on est quand même dans des excès assez importants. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ces 3,5 milliards de pertes, vous savez, c'est un peu comme Jean-Marie Messier il y a 20 ans qui parlait de pertes comptables, tout va bien, vous inquiétez pas, ce sont des pertes comptables. Bon, il y a quand même effectivement des provisions comptables au bilan pour 2,5 milliards d'euros liées à des revalorisations à la baisse des acquisitions passées. Atos s'est créé pendant 10 ans à coup d'acquisition, payé cher, payé trop cher sûrement, en tout cas qui ne valent plus le prix qui a été payé il y a quelques années, des grands noms de conglomérats qui ont vendu des activités de services informatiques à Atos, Siemens, Xerox, ou Syntel, qui est un peu moins connu, mais un groupe américain. Et ça, c'était à l'époque où le groupe était dirigé par Thierry Breton, qui a donc multiplié les acquisitions par endettement. Le groupe a beaucoup cru, la valorisation du cours a explosé en bourse, mais en même temps, c'était financé par endettement. Et quand, à un moment donné, les acquisitions ne valent plus ce qu'elles valaient,
quand même,
la marée redescend, comme on dit, sur les marchés.
Et oui, mais au-delà de la dépréciation des actifs, Mathieu, la société...
Et vous avez un groupe surendetté dont le cours de bourse vaut 1 euro aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Et la société a quand même brûlé 1 milliard d'euros de cash en 2020.
Oui, mais c'était déjà ça l'année dernière. D'ailleurs, quand vous brûlez du cash, ça veut dire que vous augmentez votre dette d'autant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le mandataire ad hoc d'Atos, Mme Hélène Bourboulou, va faire les comptes, c'est pas 4,5 milliards d'euros de dette comme on en a aujourd'hui. C'est comme sur Casino, vous pouvez en rajouter 2 milliards de plus si vous voulez. Vous voyez, c'est ça le problème. Atos, en fait, est un LBO géant. Voilà.
Oui.
Atos est un LBO géant, mais c'est vrai. Enfin, c'est pas un gros mot, LBO. Il y a des LBO qui marchent très bien. C'est un LBO géant, sauf qu'à un moment donné, à force de faire des acquisitions par endettement sur des sociétés dont aujourd'hui,
Je sens que le message subliminal, c'est merci Thierry Breton ce soir. Non, je me trompe.
Moi, j'ai ni à remercier ni à accuser. Il y a quand même un constat assez net. Thierry Breton a dirigé Atos de 2010 à 2018. Il a réalisé des acquisitions extrêmement importantes qui ont fait qu'en bourse, Atos est entré au CAC 40. Vous souvenez, ça valait 10 milliards d'euros. C'était un champion du numérique. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que les acquisitions qu'il a faites à l'époque, 1, étaient trop chères payées, d'où les pertes comptables qu'on voit aujourd'hui, et 2, aujourd'hui, elles ne sont plus stratégiques. Alors lui dit, moi je suis parti il y a 5 ans, débrouillez-vous, et puis ils n'avaient qu'à faire des acquisitions plus stratégiques après moi. Certes, il dit que le groupe n'était pas endetté quand il est parti. Bon alors ça c'est faux, pas entrer dans les détails, mais il parle d'endettement net qui était à zéro, mais quand on regarde l'endettement brut, il était déjà à 5 milliards. Et en fait, chaque année, il avait beau jeu de vendre des actifs aussi pour renflouer un peu les caisses.
Oui, enfin, c'est une responsabilité partagée, parce que les directeurs généraux qui se sont succédés les uns après les autres, après Thierry Breton, n'ont pas fait de merveilles.
Non, mais je pense que comme lui, il ne dit qu'il n'y est pour rien, je pense qu'il est difficile de totalement l'exonérer.
Oui. Voilà.
Bon, voilà pour le point Atos. Donc 4 mois.
En tout cas, et puis un gouffre stratosphérique qui explique aussi peut-être la sortie brutale d'Airbus par rapport aux négociations qui
Personne ne sait ce qu'il y a vraiment dans cette société, en fait.
Oui, c'est ça.
Tout le monde a un peu peur des cadavres, voilà. Pour le dire de manière un peu familière.
Bien.
Chaque jour, c'est de pire en pire.
Oui, c'est ça.
C'est pas ça, gars. Bon, on a une minute pour un sujet qui va plaire à Emmanuel Le Chypre, apparemment, peut-être. Hein. Juste une réaction. Oui.
La semaine en 4 jours. Ouais. Alors, ça y est, le public se lance. Bonne ou mauvaise idée, Emmanuel?
Si on regarde les expériences qui ont été faites un peu partout, globalement, les employeurs comme les employés sont plutôt satisfaits par cette semaine de 4 jours où on fait
en 4 jours, attention.
En gros, on travaille que 4 jours mais on travaille plus par jour, et effectivement ça facilite finalement les employés sont contents parce que ça facilite leur vie personnelle, ils viennent une journée de moins, les employeurs sont contents parce que finalement en termes de productivité c'est pas si mal, etc. Tout le monde est en gros
réduction de l'empreinte carbone qui vous tient à cœur.
Absolument, 7 sur 10 à peu près à chaque fois, c'est la proportion, c'est 70% de satisfaits chez les employeurs comme chez comme chez les salariés. Après c'est étonnant que le seul endroit où ça a déjà été testé, qui était dans la fonction publique, c'était à la Poste, je crois, et ça n'a pas recueilli un succès phénoménal. Donc voilà, est-ce que le service public, c'est en fait, si vous voulez, ça ne change pas grand-chose, c'est une commodité que l'employeur offre à ses salariés. Pourquoi pas.
Alors ceci dit, le test qui est en cours depuis le 1er septembre au sein de la métropole de Lyon, lui, est plutôt très concluant.
Ils sont pour aussi.
Oui, apparemment ça se passe très bien sur les 9600 agents qui ont testé.
Emmanuel lui fait la semaine en un jour.
Et tous les
emplois.
Oui, c'est ça.
Non,
oui. Emmanuel, c'est 7 sur 7, 24 sur 24.
Matin, midi et soir.
C'est un autre concept.
Et nous, on peut pas, faut qu'on soit tous les jours. Donc, on peut pas parler de la semaine en 4 jours. Voilà.
On peut pas faire ça.
Tout le monde n'est pas
libre. Il y avait l'avancée qui consistait à dire. Alors, l'idée sur. Moi, j'ai bien aimé, quand même, dans la proposition de Gabriel Attal, vous savez, qui était destinée aux parents divorcés en garde alternée. Alors, j'ai pas compris le principe, parce qu'en fait.
Bah, si,
c'est. Non, c'est idiot. Ce qui a été proposé était idiot, puisque si vous proposiez aux parents qui sont en garde alternée de faire 4 jours, ça veut dire que vous travaillez plus par jour. Or, le parent qui est en garde alternée, il a besoin de plus de temps le matin et plus le soir.
Par contre, l'inverse.
Vous gagnez une journée, vous gagnez une journée.
On ressent l'expérience.
Non, mais cette idée.
On sent le vécu.
Expérience partagée. Par contre, cette idée qui consiste à dire, quand vous avez des parents qui sont en garde alternée, peut-être gérer le temps de travail sur 2 semaines.
Bah oui, voilà, c'est ça.
La semaine où vous n'avez pas les enfants.
Une semaine 5 jours et une semaine 4 jours.
Vous travaillez plus. Et la semaine où vous avez moins les enfants, vous travaillez moins.
Et donc, c'est pas complètement idiot.
Non, la façon dont c'était présenté, en gros, c'est la semaine de 4 jours.
Comme souvent. Vous,
voilà, mais cette idée, moi j'avoue que je la trouve assez, assez prometteuse.
Les parents se le
disent. On verra demain.
Mais je pense qu'il y a plein d'entreprises qui ont déjà pensé.
Il y a plein d'entreprises, il y a plein de boîtes, effectivement. Les parents se le sont appropriés. Merci à tous les trois d'être venus, Mathieu Pechberti, Emmanuel Le Chypre et Thomas Asportas. À très vite, évidemment, 18h58. Bah, nous, on revient dans 2 minutes.
Et oui, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.